C'était cela, il est ressuscité. Le cri de l'Église du 21e siècle, c'est
il est ressuscité.
Le cri de l'Église dans tous les siècles, c'est
il est ressuscité.
Il est ressuscité. Nous célébrons la résurrection de Jésus. Nous allons passer à la parole de Dieu. Thank you, Jesus. Father, we thank you this morning. Nous te remercions. Te remercions parce que l'entrée de ta parole apporte la lumière, apporte l'éclairage, apporte la révélation, la compréhension, le discernement, la transformation. Ce que nous voulons, Père, c'est que tu communiques à nos cœurs ce qui est sur ton cœur. Yes, Father. Yes, Father. Hallelujah. Yes, Father. Merveilleux Saint-Esprit, nous te remercions. Jésus a dit que tu nous conduiras dans toute la vérité. Nous sommes convaincus ce matin que tu vas nous conduire à voir le Fils de Dieu différemment. Que nous sortirons d'ici avec des cœurs embrasés pour Jésus. Avec une conscience d'avoir rencontré l'Éternel. Dans le nom puissant de Jésus. Amen.
Amen.
Alléluia. Il est
ressuscité.
Je vais vous demander de dire bonjour à quelqu'un à côté de vous. Et dites-lui, il est ressuscité. Et faites-lui un grand sourire. Parce que la résurrection est une bonne nouvelle. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Vous pouvez vous asseoir, vous êtes déjà assis. Amen. Je vais vous demander de tourner avec moi dans le livre des Actes. Et si vous n'avez pas une Bible, regardez la Bible de la personne à côté de vous. Nous chantons la résurrection, nous célébrons la résurrection de Jésus. Mais il y a une raison pour cela. Une raison très importante. Une raison qui a changé nos vies et qui va changer la vie de tous ceux qui l'acceptent. Dans le livre des Actes, au chapitre 1, il nous a dit ceci. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit. Si vous demandez de quel livre il s'agit de l'Évangile de Luc. Parce que l'auteur du livre des Actes, c'est le médecin Luc. Et Luc, le médecin, avait écrit l'Évangile en disant qu'il voulait que les uns et les autres soient convaincus de la véracité des choses qui leur avaient été annoncées. Luc était un médecin, c'était un homme de science, c'était un homme qui tenait aux faits. Et il a continué dans le livre des apôtres, dans les Actes des apôtres, en disant, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Maintenant, faites attention au verset 3. Il dit ceci, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours. 40 jours. Et parlons des choses qui concernent le royaume de Dieu. Maintenant, nous allons regarder ensemble dans Actes 10, au verset 38. Dans Actes 10, au verset 38, il nous est relaté une histoire très intéressante pour la plupart d'entre nous ici. C'est l'histoire de la conversion des premiers non-juifs dans la maison de Corneille. La plupart d'entre nous, nous sommes non-juifs. Donc ça nous intéresse particulièrement de savoir comment l'Évangile est venu aux personnes qui n'étaient pas de la nation juive. Et Pierre est en train de parler avec ces personnes. Nous avons entendu l'évangéliste Luc. Maintenant, Pierre est en train de parler avec ces personnes au verset 37. Il dit ceci, « Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée. Après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché, tout le monde connaît Jean-Baptiste. Vous savez, qui le sait ici? Je le sais, bien et moi. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Un petit résumé du ministère de Jésus. Il allait de lieu en lieu et il faisait du bien. Jésus allait de lieu en lieu et il faisait du bien. Il faisait du bien, il guérissait tous ceux qui étaient opprimés par le diable, car Dieu était avec lui. « Nous sommes, dit-il, témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. » Ensuite, il continue en disant, « Ils l'ont tué en le pendant au bois. » Au verset 40, et c'est ça la bonne nouvelle, « Dieu l'a ressuscité le troisième jour. » Et il a permis qu'il apparaisse. Rappelez-vous, l'évangéliste Luc nous avait dit qu'il a souffert. Ensuite, il est revenu à la vie. Il leur apparu vivant. Il leur en donna plusieurs preuves. Et dans le grec, le mot utilisé pour preuve, c'est l'expression preuve irréfutable. Dans plusieurs traductions anglaises, ils parlent de infallible proofs, des preuves irréfutables. Que lorsque Jésus est ressuscité, il est apparu à ses disciples et il leur a donné des preuves irréfutables de son existence, de sa résurrection. Donc l'apôtre Pierre reprend le même thème en disant « Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparaisse non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui. » Dites, c'est lui.
C'est lui.
C'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage. Qu'est-ce que les prophètes disent au sujet de Jésus? Que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Et quand Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole et ces personnes ont été converties. Le premier témoignage, il a souffert, ensuite il est apparu vivant. Ici, il nous dit, ils l'ont tué en le pendant à la croix. Verset 40, Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Ensuite, un autre passage dans 1 Corinthiens 15. Encore un autre témoin, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15. Est en train d'expliquer l'évangile que nous avons prêché. Il est important pour nous de savoir en quoi consiste l'évangile. Nous avons beaucoup d'idées sur l'évangile. Nous avons, parfois nous grandissons dans l'église et nous avons une perspective de Dieu. Mais c'est important de toujours voir dans la parole de Dieu qu'est-ce que l'évangile. Et au verset 15, au chapitre 15, au verset 1, l'apôtre Paul dit ceci, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. » Au verset 3, qu'est-ce qui leur a été annoncé? « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. » D'abord, il a souffert et il est apparu vivant. Ensuite, témoignage de l'apôtre Pierre, ils l'ont tué en le pendant au bois, mais Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Et les prophètes rendent témoignage de lui que c'est lui qui est le juge des vivants et des morts et que ceux qui croient en lui seront sauvés. Témoignage de l'apôtre Paul ici. Que Christ est mort pour nos péchés. Ils l'ont pendu au bois. Et il est mort pour nos péchés, non pas pour les siens. Que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Et il est apparu à Céphas, puis aux 12. Nous allons reprendre plus tard tous ceux à qui il est apparu. Alors, la chose première que nous devons remarquer, c'est que la venue de Jésus sur la terre était conforme au plan que Dieu avait établi, parce qu'il nous a dit que c'est selon les Écritures. En d'autres termes, la mort de Jésus n'était pas un meurtre ni une trahison, c'était un sacrifice. C'est un choix que Dieu a fait, c'est un choix que Jésus a fait, parce que c'était nécessaire. Et nous allons voir pourquoi c'était nécessaire. Et pourquoi Jésus est tellement incontournable, alors que nous célébrons la résurrection. C'est important pour nous de comprendre pourquoi la venue de Jésus a tout changé pour l'humanité. Et pourquoi il nous a dit que c'est lui qui a été désigné comme le juge des vivants et des morts. En réalité, l'évangile, c'est quelque chose de très sérieux. Nous savons que Dieu nous donne la vie, nous donne la joie. Et souvent, lorsque vous venez dans nos églises, tout le monde danse, on chante, on est heureux. Pourquoi? Parce que Dieu bénit, donne la joie, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est important pour nous de savoir qu'il s'agit des choses sérieuses. Il s'agit des choses incontournables. Il s'agit de choses concrètes qui vont définir et le présent et l'avenir de tout homme et de toute femme. Vous savez, avant que Jésus ne soit crucifié, il avait déjà commencé à dire à ses disciples, la parole de Dieu nous explique qu'à un moment donné, il a demandé à ses disciples, mais qui dites-vous que je suis? Qui est-ce que les gens disent que je suis? Pour savoir s'ils avaient compris. Ils ont dit beaucoup de choses. Après, il a dit, mais qui dites-vous que je suis? C'est important, c'est une question que chacun devrait se poser. Je vais vous la poser à la fin de ce message. Qui dites-vous que Jésus est? Et Pierre, toujours intrépide, a déclaré, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il en a eu la révélation. Dites révélation. Révélation. Alléluia. Priez pour votre voisin et votre voisine qu'il en ait la révélation. Mais tout de suite après, Jésus a commencé à leur parler du fait, nous dit la parole de Dieu, qu'il devait être livré aux autorités qui allaient le crucifier. Et que 3 jours après, il allait ressusciter. Et la réaction de Pierre a été immédiate. Ah non! Parce que cela ne correspondait pas à l'idée qu'ils avaient du Messie. Le Messie, c'était le roi. C'était celui qui allait triompher. Mais la manière dont Jésus allait triompher était totalement différente de ce qu'eux imaginaient. Et pendant tout ce temps, il nous a dit que Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien. Et ses disciples l'accompagnaient. Alors, ils voyaient Jésus faire du bien. Jésus guérissait le paralytique. Il guérissait la femme qui était courbée. Il guérissait cette femme qui souffrait d'une perte de sang pendant de longues années, qui avait tout essayé. Elle voit tous les médecins. Elle a dépensé tout son argent, elle n'avait plus d'espoir. Mais dès qu'elle a touché le pan de la robe de Jésus, elle a été complètement guérie. Jésus guérit encore aujourd'hui. Et si vous êtes malade ici, faites confiance à Jésus pour votre guérison, parce qu'il n'a pas changé. Il allait de lieu en lieu faisant du bien et ses disciples le suivaient partout. Alors vous imaginez l'exaltation et la joie de ces personnes qui accompagnaient le maître, qui le suivaient, qui étaient avec lui. Et quand les gens voulaient voir Jésus, venaient aux disciples parce qu'on peut voir le Seigneur. Comme les Grecs qui étaient allés voir Philippe pour dire, on veut voir Jésus. Et Philippe, vous voulez voir Jésus? Et Jésus leur a donné la puissance de guérir, de sauver. Et ils sont allés aussi prêcher l'évangile. Ils sont revenus, mais et dans l'extase, enthousiasmé. Mais Seigneur, même les démons nous obéissent en ton nom et tu te rends compte. We've arrived. Et de toute cette exaltation, toute cette joie, et pendant que Jésus leur expliquait sa mission sur la terre, ils n'avaient toujours pas compris. Et ces dernières semaines avant la crucifixion de Jésus étaient très intéressantes parce qu'il est arrivé dans Jérusalem, il a été accueilli comme un roi. C'était princier, c'était majestueux. Mais lui savait exactement comment ça allait se terminer. Il a été accueilli, il est allé dans le temple, il a chassé les personnes qui vendaient dans le temple, il a pris l'autorité dans le temple. Et il y a des prophéties du Messie qui déclarent que le Messie allait régner dans le temple. Et j'imagine que ses disciples étaient là, waouh, c'est bon, ça commence. Mais au fil de quelque temps, ils se sont rendus compte que ce n'était pas ce qui allait se passer. Vous savez, c'est important de voir Jésus tel qu'il est, pas tel que nous souhaiterions qu'il soit. C'est important que chacun de nous essayons d'appréhender Dieu tel qu'il s'est révélé, pas tel que nous voudrions qu'il soit. Ce qui est intéressant avec Dieu, c'est qu'il ne se conforme jamais à nos attentes ou nos sentiments ou notre imagination. Il est tel qu'il est. Nous changeons nos attentes, nous changeons notre manière de fonctionner et nous nous conformons à lui. Amen. Alléluia. C'est une très bonne chose. Parce que vous savez, quand je pense aux choses auxquelles je pensais il y a 10 ans, je suis contente que ces choses ne soient pas vraies. Et donc, nous tenons tellement à certaines choses, nous sommes convaincus que c'est cela la vérité. Mais lorsque nous ouvrons les yeux pour regarder Dieu tel qu'il est, nous sommes heureux d'accepter de changer. Glory to God. Et donc, Jésus a commencé à leur montrer que les choses allaient être différentes. Il commençait à parler de sa passion, sa mort, sa résurrection. Et ils ont commencé à être tristes. Et finalement, ils sont allés dans le jardin de Gethsémané. Dans ce jardin, Jésus a commencé à porter l'agonie et la souffrance de ce qu'il allait endurer, de ce qu'il allait faire. Et très souvent, les gens ne comprenaient pas pourquoi une telle agonie. Pourquoi une telle agonie? Parce que la mort de Jésus sur la croix n'était pas en meurtre. Jésus est venu, il a dit lui-même, « Personne ne me prend ma vie, c'est moi-même qui la donne. » Sous l'ancienne alliance, ils avaient l'habitude de sacrifier des boucs, des béliers, des agneaux pour que le péché du peuple soit effacé provisoirement. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus est l'agneau de Dieu. Lorsque Jean l'a vu, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. De la même façon, Jésus est venu pour lui porter sur lui tout ce qui est péché qui nous sépare de Dieu. La justice de Dieu demande que le péché soit puni. L'amour de Dieu a fourni la provision pour que le péché soit puni sans que nous ayons à subir cette punition. Et Jésus a décidé de la subir à notre place. Et dans le jardin de Gethsémané, il commençait à souffrir les agonies de tout ce qu'il allait vivre et tout ce qu'il allait porter sur lui. Et comme d'habitude, ses disciples étaient avec lui, mais ne comprenaient rien. Il leur a demandé de veiller et de prier avec lui. À chaque fois qu'il revenait, il dormait, comme certains font pendant la prédication. Il dormait. Et Jésus repartait encore. Il a dit, mais vous ne pouvez même pas veiller une heure avec moi. Et finalement, ils sont venus prendre Jésus. Où est-ce que je veux en venir? Je veux que nous comprenions le sens de la résurrection. Et pour que nous comprenions le sens de la résurrection, nous devons comprendre le sens de la croix. Alléluia. Et ils sont venus le chercher, ils l'ont arrêté. Et Pierre, dans son élan habituel, il a coupé l'oreille du serviteur du souffrant sacrificateur. Il était tellement, non, non. Et Jésus a dit, stop. Pourquoi nous savons que Jésus n'a pas été... La mort de Jésus n'était pas en meurtre parce qu'il a dit que si moi je voulais les arrêter, je peux appeler mon Père et il enverra des légions d'anges pour me délivrer. En d'autres termes, je ne suis soumis à personne, je choisis de me soumettre pour un objectif plus grand. Je choisis d'accepter cela parce que ce que je vais obtenir à la fin va être infiniment plus grand, plus glorieux que le seul fait de m'épargner moi-même la souffrance. Dans le cours racine que nous faisons ici sur les fondements de la foi chrétienne, une fois on était en train de parler de ces choses, et une personne a dit, mais il y a tant de souffrances. J'ai dit, oui, tant de souffrances, mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas nous qui avons à les porter, c'est Dieu qui a décidé lui-même de les porter pour nous. Et nous dire que si vous croyez en moi, je prends tout cela pour vous. Et dans le monde, les gens sont constamment en train de dire, oui, mais pourquoi tant de souffrances dans le monde? Parce que le monde est déchu, mais Dieu a fourni la solution. Et dans le jardin de Gethsémané, Jésus a commencé à porter tout cela sur lui. Ils l'ont pris, ils l'ont arrêté, ils l'ont accepté, ils l'ont jugé, travesti de justice monumentale, et ils ont décidé de le condamner. La parole de Dieu nous dit qu'ils ont condamné le prince de la vie. Ils ont décidé de le condamner et il a accepté d'être condamné. Non seulement ils l'ont condamné, ils l'ont fait souffrir. C'est ce que l'apôtre, l'évangéliste Luc nous dit dans ses termes très succincts, après avoir souffert. Après avoir souffert. Ils l'ont battu par des verges, ils l'ont fait souffrir. C'est pour ça que la parole nous dit que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Il a été meurtri. Ésaïe 53 est très éloquent à ce sujet. Vous savez, l'apôtre Pierre disait, selon les Écritures, les prophètes l'avaient annoncé. Et un des prophètes qui l'avait annoncé, c'était justement le prophète Ésaïe. Dans Ésaïe 53, il commençait à parler du Messie. Il disait, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est le sens de la croix. Il y a d'autres personnes qui ont été crucifiées. Il y a 2 voleurs qui ont été crucifiés avec Jésus. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas en train de célébrer leur résurrection, non seulement parce qu'ils ne sont pas ressuscités, mais parce que leur mort n'avait aucune valeur universelle. Mais les prophéties annonçaient déjà que le Messie allait souffrir. Et c'est pas, c'est, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Je vous dis aujourd'hui, quelle que soit votre situation, la parole de Dieu est claire. Le châtiment qui vous donne la paix est déjà tombé sur Jésus. Aucun être humain ne devrait vivre sans paix. Aucun être humain ne devrait aujourd'hui continuer à vivre sans la joie parce que le châtiment qui nous donne la paix est déjà tombé sur Jésus. Et c'est important de le comprendre. Dieu a pour vous le moyen pour que tout être humain puisse vivre dans la paix, pour que tout être humain puisse avoir la joie, quelles que soient par ailleurs les circonstances naturelles. Nous sommes des êtres spirituels et ce qui donne la vie, la joie, la paix, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et l'intérieur de nous, donc lorsque nous sommes sous la domination et le contrôle de Dieu, que nous avons donné nos vies à Jésus, Dieu amène à l'existence les choses qui ne correspondent même pas aux réalités de nos vies. La vie de Dieu. Vous êtes un être spirituel. Dites à votre voisin, tu es un être spirituel. Tu n'es pas qu'un être naturel. Tu as un esprit qui doit être connecté avec Dieu. Et c'est de là que vient la vie. C'est de là que vient la joie. Et c'est là où tu as la paix. Alléluia. Est-ce que vous avez bien prêché à votre voisin? Glory to God. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc, ils l'ont martyrisé, ils l'ont fait souffrir. Après, ils l'ont amené à Golgotha et ils l'ont cloué à la croix. Je suis émerveillée par ce que Jésus a fait à la croix. On peut résumer rapidement ce qu'il a fait à la croix. Jésus, dans sa souffrance, dans son état de faiblesse, il était tellement faible qu'ils ont dû choper quelqu'un sur le chemin pour mettre sa croix sur lui. Il avait des meurtrissures de partout et il avait déjà transpiré du sang dans le jardin et maintenant il était rempli de blessures. Et la parole de Dieu nous dit que ces blessures, il les a obtenues pour nous. Et ils l'ont cloué à la croix. Et là encore, il a trouvé le temps de pardonner. Il a pardonné au voleur qui a demandé pardon. Ensuite, il a intercédé au Père en faveur de ceux qui l'ont crucifié. Il a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne pouvaient même pas se douter qu'ils étaient en train de crucifier le Seigneur de gloire. Ils ne se doutaient pas qu'ils étaient en train de crucifier le Prince de la vie. Ils ne se doutaient pas qu'ils étaient en train de crucifier celui dont Jean 1 dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole s'est faite chair. Et j'aime beaucoup ce passage dans l'épître de Pierre où il dit, que nous ne racontons pas des mythes habilement conçus. Que ces choses dont nous vous avons parlé, ce ne sont pas des histoires que nous avons concoctées. Nous étions des témoins de sa gloire. Et c'est important pour nous aujourd'hui au 20e siècle, 21e siècle, de comprendre que l'évangile, ce ne sont pas des mythes que les hommes ont concoctés. C'est une réalité. Et la vie que Dieu donne et que Dieu offre aussi est une réalité. Et ils l'ont cloué à la croix. Et vous savez, il nous a dit que pendant 3 heures, l'obscurité a couvert la terre tout entière. Pendant 3 heures, alors que Jésus était à la croix, la terre entière était couverte d'obscurité, de ténèbres. Et les gens, avant cela, les gens passaient et se moquaient de lui, crachaient sur lui, disaient, mais toi, tu as sauvé les autres, pourquoi tu ne te sauves pas toi-même? Mais descends de la croix si tu es le Fils de Dieu. Mais si Jésus était descendu de la croix, nous aurions tous été voués en enfer. Il n'y aurait pas eu de solution possible. C'est pour cela qu'il nous dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et l'apôtre Pierre dit, ce ne sont pas des fables habilement conçues, nous étions des témoins. Et c'est important pour chaque homme et femme, que vous soyez déjà connectés avec Dieu aujourd'hui ou pas, de prendre conscience de ces choses. Nous ne pouvons pas ignorer qui est Jésus. Il n'était pas un bon philosophe ou un homme bien. Un homme bien, comme nous l'avons dit dans notre flyer, un homme bien ne dit pas « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père si ce n'est par moi. » Non. S'il n'était pas le Fils de Dieu, il devait être un fou, mais il était le Fils de Dieu. Et à la croix, pendant 3 heures, l'obscurité la plus totale sur la terre entière. Il a été brisé pour nous. Et pendant ce temps, il subissait tout le châtiment, toute la punition. Il a été traité comme s'il était pécheur, alors qu'il n'avait commis aucun péché. C'est la raison pour laquelle nous pouvons, en venant à lui, recevoir le pardon des péchés et ne plus avoir de sentiment de culpabilité. Il a été traité comme s'il était pécheur. Tout a été mis sur lui, tous les vols, tous les viols, tous les mensonges, tout le mal qui existait sur la terre, tous les péchés qui avaient été commis, qui pouvaient être commis, ont été déposés sur lui, et lui-même, dont son esprit a subi la punition. Et il a lancé un cri d'angoisse. Mais à la fin, avant de mourir, il a donné son âme à Dieu, son esprit à Dieu. Et il a dit, tout est accompli. Et en ce moment-là, il a rendu l'âme. Et c'était tellement extraordinaire, tout avait changé. Tellement extraordinaire que même en centenier, en soldat romain, s'en était émerveillé et il a dit, décidément, lui, c'était le Fils de Dieu. Mais il a été brisé pour nos péchés. Et toute cette souffrance, toute cette peine, il a enduré pour que nous n'ayons plus à l'endurer. Et ces disciples qui, au début, s'étaient enfuis après que Jésus ait été arrêté, ils étaient totalement consternés. Les femmes qui l'ont suivi pendant tout son ministère, au pied de la croix, étaient dans la détresse la plus totale. Et Joseph d'Arimathée est venu chercher son corps et il a été enterré. Et alors vous me direz, mais Jésus leur avait dit qu'il allait ressusciter. Eh bien, il semblait avoir oublié. Parce que tout d'un coup, tout était devenu sombre, tout était devenu triste. Parce que de toute façon, ils ne comprenaient pas vraiment le sens de sa mort. Ils n'ont compris qu'après. Et lorsqu'ils l'ont compris, ils n'ont pas arrêté d'en parler. Et c'est la raison pour laquelle nous parlons tellement de Jésus. Que s'il était simplement venu nous encourager et dire de bonnes choses, pourquoi pas, il y a d'autres hommes qui ont vécu, qui nous ont encouragés et qui ont eu de bonnes choses. On peut les lire dans les bibliothèques. Mais il a fait plus que ça. Il est venu totalement changer la condition humaine et la relation entre l'homme et Dieu. Il a été enseveli. Dans 1 Corinthiens 15, il nous a dit qu'il a été enseveli. Témoignage de l'apôtre Paul. Et c'est cela l'évangile que nous prêchons. Christ est mort pour nos péchés. Et ces personnes qui le haïssaient tellement voulaient à tout prix le discréditer. Sont allés s'assurer de ce que les gardes soient postés à l'entrée du tombeau. Parce que elles se souvenaient qu'il avait dit qu'il allait ressusciter. Ses disciples avaient oublié. Mais les gens qui le haïssaient se souvenaient. Et ils ne le croyaient pas de toute façon, mais ils se sont dit, mais ses disciples risquent d'aller le sortir, d'aller voler son corps et venir dire à tout le monde qu'il a été ressuscité. Ils ont posté des gardes. Heureusement qu'ils ont posté des gardes. Mais après, les femmes sont parties un jour très tôt le matin. Et elles n'étaient pas parties pour aller voir Jésus ressuscité. La parole de Dieu nous dit qu'elles étaient parties avec de quoi embaumer le corps. Mais lorsqu'elles sont arrivées, elles ont eu une surprise. Un ange leur a annoncé que Jésus qu'ils cherchaient, qui a été crucifié, n'était plus là. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Comme il l'avait dit. Vous savez, Dieu tient parole. Juste un petit aparté, Dieu nous dit souvent des choses qui dépassent notre entendement. Comme par exemple, il nous dit, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. D'autres disent, c'est fini, c'est la fin, c'est la mort. Et Dieu dit, non, je guéris. Nous avons le choix de croire ou d'estimer que nous en savons plus que lui. Ou de céder à la panique et à la crainte. Les apôtres avaient cédé à la crainte et à la panique. Mais l'ange leur a rappelé, mais comme il vous avait dit, il est ressuscité. Il nous a dit qu'il leur est apparu par des preuves, il a donné des preuves irréfutables. Et comme on lisait 1 Corinthiens 15, il parle de toutes ces personnes à qui Jésus était apparu. Si Jésus était apparu uniquement à Pierre, on pourrait le soupçonner de fabrication. Ce Pierre, on peut intrépide. Mais il est apparu à Marie de Magdala, il est apparu aux femmes. Il est apparu ensuite à Pierre, parce que lorsque les femmes étaient allées le dire aux hommes, vous voyez, ça n'a pas changé. Ils n'ont pas cru. Et la parole de Dieu dit que Jean et Pierre ont couru et ont voulu voir pour eux-mêmes. Jésus est apparu à deux disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs. Et ils ont eu le visage voilé pour qu'ils ne le reconnaissent pas. Et ils étaient en train de parler. Ce qui est étonnant quand même, c'est qu'ils avaient entendu que Jésus n'était plus dans le tombeau, mais ils ne croyaient toujours pas qu'il était ressuscité. Ils étaient en train de discuter entre eux. Et cet individu est arrivé et a commencé à leur parler. Et on dit, mais comment ça? Toi, tu n'es pas au courant de tout ce qui s'est passé depuis ce temps? Tu n'es pas au courant? Lui explique, mais Jésus, il a été crucifié. Nous avions tellement d'espoir. On pensait que les choses allaient changer par lui. Et voilà, il est mort. Et encore, ce qui est encore pire, c'est qu'il n'est pas mort simplement tranquillement. Il n'est même plus là. Il est mort, on trouve même plus encore. C'est dur la vie, c'est compliqué. Et Jésus a commencé à leur expliquer par les Écritures tout ce que les Écritures disaient sur le Messie, qui devait mourir et qui devait ressusciter. Ce que je veux que nous comprenions aujourd'hui, c'est que ce qui s'est passé quand Jésus est venu sur la terre n'était pas un coup de tête que Dieu a eu tout d'un coup. C'est que cela a été annoncé pendant des siècles avant. Si Dieu a pris la peine pendant des siècles d'annoncer la venue du Fils de Dieu, sa mort et sa résurrection, c'est que c'était quelque chose de capital pour l'humanité. Et le choix de croire en Jésus, ce n'est pas selon mon humeur, ce n'est pas selon ma tradition ou ma culture, ou en choix philosophique parmi d'autres. Dieu ne se serait pas donné autant de peine s'il y avait d'autres alternatives possibles. J'ai l'habitude de dire aux gens que Jésus n'était vraiment pas maso. Lorsqu'on comprend la souffrance qu'il a endurée et ce qu'il avait vécu, si ce n'était pas indispensable, il ne serait pas venu. Et Jésus leur avait expliqué. Et après, quand il les a quittés, ils ont fini par comprendre, ah, c'est le Seigneur. Juste avant qu'ils ne l'aient, ah, c'est le Seigneur. Et ils sont repartis dire aux autres, nous avons vu le Seigneur, et les autres n'ont pas cru. Il est apparu aux deux disciples. Il est apparu à Pierre. Il est apparu ensuite aux dix apôtres réunis sans Thomas. C'est extraordinaire, la capacité de l'homme de douter. Parce que non seulement il est apparu aux femmes, il est apparu aux deux disciples, il est apparu aux dix, en plus. Mais Thomas a refusé de croire. Et certains d'entre nous, ça fait des années qu'on nous parle de Jésus. Mais nous continuons à refuser de croire. Et nous disons, oui, mais il faut que tu m'expliques ça. Il faut que j'ai une réponse à ça. Il faut que tu me prouves. Thomas a dit, si je ne mets pas mon doigt dans sa main, dans son pied, dans les trous, je ne croirai pas. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes comme ça. Ah oui, si ceci ne se passe pas, je ne croirai pas. Oui, si Dieu est Dieu, qu'il fasse ça. Dieu n'est pas là pour nous prouver son existence. Il est déjà venu vers nous. Il nous incombe, nous, de porter notre attention sur ce qui nous a déjà été donné. Parce que chacun de nous va rendre des comptes pour sa vie. Dieu a fait sa part. Est-ce que vous comprenez? Dieu a fait sa part. Et Thomas refusait de croire. Et ainsi, Jésus est apparu aux onze avec Thomas. Et là, révélation. Mon Seigneur et mon Dieu, il s'est mis à l'adorer. Je crois et je prie pour que cette saison de Pâques soit une saison de révélation pour nous. Si nous avons connu le Seigneur et que nous vivions comme si nous ne le connaissions pas, que ce soit une saison de révélation où nous décidons de nous réengager totalement pour Jésus. Si nous ne l'avons pas connu, parce que pendant des années, nous continuons à douter, à imposer nos exigences, je vais croire si, je vais accepter si, c'est le moment pour nous. Je prie que ce soit pour chacun de nous une saison de révélation. Lorsqu'ils annonçaient le Messie, ils l'appelaient Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu est venu vers nous. La question est de savoir est-ce que nous allons venir vers lui. Ensuite, Jésus est apparu à sept disciples. Et ensuite, il est encore apparu à d'autres sur une montagne. Et l'apôtre Paul nous dit ici que par la suite, au verset 6, ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Plus de 500 personnes l'ont vu au même moment. Dont la plupart sont encore vivants. Contrairement à ce que beaucoup de gens croient, les livres du Nouveau Testament étaient écrits très, très tôt. Très tôt. Et l'apôtre Paul, qui lui-même ne connaissait pas le Seigneur de sa vie, n'était pas son disciple, l'a connu après, témoigne ici que parmi ceux qui ont vu Jésus vivant, beaucoup sont encore vivants. Et s'il avait menti, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui se seraient dit « Ah non, c'est pas vrai !» 500 personnes l'ont vu, ressuscité. Et certains étaient encore vivants quand cette épître a été écrite. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux aussi, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Voilà ce que nous prêchons. J'ai envie de vous dire aujourd'hui, voilà ce que nous prêchons. C'est cela l'évangile. Christ est mort pour nos péchés. Il a été enseveli. Il est ressuscité le troisième jour. Il est apparu à ses disciples. Il a donné des preuves irréfutables de son existence. Et il est reparti au ciel. Et à tous ceux qui croient en lui, il donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Parce que la séparation entre l'homme et Dieu ne pouvait être enlevée que par la punition pour le péché qui a séparé l'homme de Dieu. Et cette punition a été prise par Jésus et personne d'autre. C'est ce qui le qualifie pour nous sauver. Toute notre justice n'est pas suffisante. Et Jésus leur est apparu. Et pourquoi cela a son importance, le fait que Jésus soit ressuscité? Est-ce que vous savez que Jésus n'était pas la première personne à revenir de la mort? Jésus lui-même, parmi les miracles qu'il faisait, il avait ressuscité Lazare. Mais nous ne sommes pas aujourd'hui en train d'adorer Lazare. Il avait ressuscité le fils d'une veuve, son fils unique. Jésus passait par là et tous ces gens qui pleuraient, qui allaient en enterrement, et ils ont dit, « Ah Seigneur, c'est cette pauvre femme, c'est son fils unique. » Et Jésus, comme toujours, ému de compassion, a ressuscité ce garçon. Nous ne sommes pas en train de l'adorer aujourd'hui. Et juste un petit aparté, quelle que soit votre situation aujourd'hui, Dieu n'est pas là pour vous juger, il est ému de compassion. Il y a des personnes qui ont l'image de ce Dieu sévère et dur. Tu as fait quoi? Ne parle pas fort, c'est Dieu, entre, il va me tuer. L'amour de Dieu est la raison pour la venue de Jésus. Et il était ému de compassion, il a ramené ce garçon à la vie. La résurrection de Jésus est différente à cause de la raison pour laquelle il est mort. Nous avons vu dans Isaïe 53, s'il avait porté nos punitions à la croix et qu'il était resté mort, nous ne pourrions pas être sauvés. La résurrection de Jésus a son importance, c'est ce qui a amené la transformation radicale. Parce que l'apôtre Paul, est-ce que vous connaissiez l'apôtre Paul? C'était Saül, c'était le persécuteur de l'Église. Le phariséen, un homme très instruit, un homme brillant, mais brillantissime, un grand dans sa génération. Il était disciple du grand Gamaliel, il connaissait les Écritures. Il était convaincu que ces gens, ces sectes de Nazaréens, c'était des impies et il faut les exterminer. Vous savez, s'il n'y avait que les pierres qui ont suivi Jésus dès le début, qui ont témoigné pour lui, on pouvait peut-être commencer à douter, mais il y avait des gens comme Paul, qui étaient des ennemis de l'Église. Et il a tout fait. Il allait de synagogue en synagogue, de lieu en lieu. Il les sortait de leur maison et les faisait périr. La bonté de Dieu. Et quelqu'un me posait une question hier par rapport à quand on a fait des choses vraiment très, très mal. Comment rebondir? Est-ce que vraiment le pardon? Je dis, ah, Dieu pardonne. C'est ça qui est extraordinaire avec Dieu. Il ne se lasse pas de pardonner. S'il a pardonné à Paul, croyez-moi, il vous pardonne à vous. À ce que je sache, personne ici n'a tué des chrétiens. Vous les avez peut-être insultés. Bienvenue dans le club, moi aussi. Vous les avez peut-être persécutés verbalement. Bienvenue au club, moi aussi. Alléluia. Mais la revanche de Dieu, ce n'est pas de vous tuer, c'est de vous sauver. Et de faire de vous quelqu'un qui va prêcher le même évangile qu'il avait dénoncé. Alléluia. Vous êtes là? Vous êtes vraiment là? Demandez à votre voisin s'il est là. L'évangile est une bonne nouvelle. Par ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, le mot grec évangile veut dire la bonne nouvelle. Nous ne l'avons pas traduit et c'est dommage, nous aurions dû le traduire. Parce que quand les apôtres allaient partout, ils venaient dire, nous venons vous annoncer la bonne nouvelle. Nous disons, nous venons vous annoncer l'évangile, les gens, c'est quoi? Dieu va nous tuer, c'est ça? Non, eux ils disaient, nous allons vous annoncer la bonne nouvelle. Ah bon? C'est quoi la bonne nouvelle? Transformer la vie de quelqu'un comme Paul, il a une rencontre avec Jésus et il a été complètement changé. Changé. Et Dieu s'est servi de cet homme pour écrire les deux tiers du Nouveau Testament. Dieu a un sens de l'humour. Alléluia. Et je crois que chacun de nous ici, nous ne sommes pas là par hasard. Que vous soyez pleinement engagé avec Jésus, ou que ce soit des années que vous fuyez Dieu, Dieu a un plan pour vous. Vous allez comme un Paul, grand défenseur de l'Évangile. Et non seulement il a rencontré le Jésus ressuscité, sa vie a été changée de fond en comble. Ça, c'est la puissance de la résurrection de Jésus. Sa résurrection est importante parce que le livre d'Éphésiens nous explique que la puissance de Dieu l'a ressuscité des morts et sa résurrection a été conduite à son exaltation. Il a été ressuscité et élevé au-dessus de toutes les puissances et de toutes les dominations. Il y a des gens qui ont peur de tout. Quand on est enfant de Dieu, on n'a pas à avoir peur de quoi que ce soit. de quoi que ce soit, ni de qui que ce soit par ailleurs. Parce que Jésus, dans le livre de Philippiens, il nous explique que lui qui existait en forme de Dieu, il était Dieu, il n'a pas considéré l'égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé. Et il s'est fait moins qu'un esclave, et il est venu sur la terre. Et c'est là où il est allé partout faisant du bien. Mais à la fin, il a souffert, il a été crucifié, il a été enseveli. Et il fallait qu'il soit ressuscité pour reprendre la gloire qu'il avait auprès du Père avant de venir sur la terre. La résurrection de Jésus est importante. Parce que c'est la foi en sa résurrection qui nous sauve. Dans Romains 19, il nous dit que si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Crois que Jésus est ressuscité, exalté, et qu'il a repris sa place de gloire auprès du Père est indispensable pour être sauvé. Individuellement, mais aussi, dans 1 Corinthiens 15, verset 17, il nous dit, « Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. » Oui, mais je suis chrétien, mais bon, la résurrection, vous savez, ce n'est pas en self-service. L'évangile n'est pas en buffet. Je prends l'entrée. Je ne suis pas féru de viande, je laisse de côté la viande. Oui, oui, peut-être le petit plat de riz. Ah oui, c'est orientillé. Ah, parfait. Non. L'évangile n'est pas en buffet, en self-service que je compose à ma guise. Ça, je veux, ça, je ne veux pas, ça, je ne veux pas. Il y a un ancien président américain qui avait découpé sa Bible. Et il avait coupé les parties qu'il n'aimait pas, il les a enlevées. Donc, tout ce qui ne lui correspondait pas, il découpait, il l'enlevait. Il avait sa Bible avec beaucoup de trous, il n'a gardé que les choses qui lui convenaient. Et beaucoup d'entre nous, dans notre doctrine au sujet de Jésus, nous sommes comme ça. Et nous disons que nous sommes chrétiens, mais cette histoire de résurrection, c'est un peu trop surnaturel, je vais enlever ça. Et quand, si on devait mettre notre doctrine dans un livre, on aura beaucoup de trous à l'intérieur. Parce que des éléments, oui, ça ne m'arrange pas, ça ne m'arrange pas. Dieu nous demande de nous conformer à lui. Et donc, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Aïe! Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas dans cette vie seulement que nous espérons en Christ. Christ est ressuscité. Des vies ont été transformées, les vies sont encore transformées aujourd'hui. C'est ce qui amène le salut individuel, c'est ce qui donne le sens à la foi chrétienne. Et c'est la puissance de sa résurrection qui change nos vies. L'apôtre Paul disait qu'il voulait le connaître, et la puissance de sa résurrection. Il a dit que la même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts agit en nous. Et si vous êtes enfant de Dieu, cette même puissance de Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts agit dans votre vie. Au jour le jour, vous pouvez compter sur Dieu. Dites à vos voisins, tu peux compter sur Dieu. Non, il n'est pas convaincu. Il faut que vous appreniez à prêcher. Tu peux compter sur Dieu. Allez, on peut plus, on peut plus, on peut plus. Allez-y à fond la caisse. Dites à votre autre voisin. Alléluia. Sa puissance est à ta disposition. Sa force est à ta disposition. Et trop d'entre nous qui nous disons chrétiens, nous sommes là à nous plaindre. Oh, moi, vraiment, je ne sais pas, rien ne va, je ne comprends pas dans ma vie, tout va de travers, j'aime Dieu, mais bon, je ne vois pas ce qu'il fait. Hein. C'est là, tu viens prier pour moi parce que là, j'en peux plus. La même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. La prochaine fois que vous avez envie de vous plaindre, La prochaine fois que vous avez envie de dire, « Ah, oh, la vie est tellement dure. Ah, » mais non, la vie n'est pas dure. La même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. À chaque fois que vous êtes face à une situation qui vous défie, choisissez de défier cette situation et dire la même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts agit dans ma vie et agit en ma faveur. Et lorsque vous décidez de croire et de déclarer cette parole de Dieu, cette puissance est libérée dans votre vie. La même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Jésus a été exalté. Dans le livre des Actes, il nous explique comment son départ s'est fait. Les apôtres étaient réunis et le Seigneur leur a donné la promesse du Saint-Esprit. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Est-ce que vous savez que ces personnes étaient déprimées avant? Maintenant, ayant rencontré Jésus, ressuscité, elles ont été transformées. Mais Jésus n'est pas resté, il est parti. Mais en dépit du fait qu'il soit parti, ils ont continué dans la foi. La résurrection est importante. Lorsque les apôtres ont commencé à déclarer la résurrection de Jésus, parce que c'est ce qu'ils ont prêché, lorsque vous regardez le livre des Actes, ils disaient constamment, vous l'avez tué, Dieu l'a ressuscité. Le résumé de leur message, vous l'avez tué, Dieu l'a ressuscité. Vous l'avez tué, Dieu l'a ressuscité. Plusieurs fois, vous l'avez tué, Dieu l'a ressuscité. Lorsqu'ils ont guéri l'homme qui était aveugle, comment ça s'est passé, qui était infirme, vous l'avez tué, Dieu l'a ressuscité. Et c'est par sa puissance que cet homme a été guéri. Vous l'avez tué, Dieu l'a ressuscité. Ces hommes et ces femmes ont été transformés. Et les autorités ont voulu les tuer. Mais ils ne se sont pas tués. Ils ont continué. Parce qu'ils ont eu la preuve irréfutable que Jésus était vivant. Et c'est parce qu'il vit aujourd'hui qu'il est en mesure de nous donner la vie. Si Jésus était resté mort, il n'aurait pas pu nous sauver. Mais parce qu'il n'est pas resté mort, tous ceux qui viennent à lui peuvent recevoir la vie. Alors la question que je vous pose, je vais vous demander de poser la même question à votre voisin. Qui dites-vous que Jésus est? Qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus? Demandez à votre autre voisin. Qui est Jésus pour toi? Nous allons prier. Qui est Jésus? Nous allons prendre quelques instants simplement pour nous mettre devant Dieu et lui donner notre réponse à cette question. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord.